Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour, bonjour à tous. Il veut simplifier les démarches administratives. Le Premier ministre Gabriel Attal doit officialiser plusieurs nouveautés ce matin dans un déplacement dans les Hauts-de-Seine. En particulier, le versement automatique des bourses scolaires aux 1,5 million de bénéficiaires dès la rentrée de septembre. Le recours à l'intelligence artificielle sera également généralisé pour aider les usagers des services publics. Et puis, Gabriel Attal doit également annoncer l'augmentation du nombre de maisons France Service. Le gouvernement reprend la main après l'échec des négociations. L'exécutif prendra de nouvelles règles pour l'assurance chômage. Elles seront en vigueur à partir du 1er juillet après la publication d'un nouveau décret. Objectif, atteindre le plein emploi. Les suites du drame sur la fête foraine de Blois ce week-end. Le gérant de l'attraction en cause a été mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. D'après les premiers résultats de l'enquête, la jeune femme de 27 ans tuée dans l'accident samedi a été éjectée en raison de l'ouverture d'une barrière de sécurité. Sa famille a déposé plainte contre X pour homicide involontaire. Il est très attendu par les forces ukrainiennes. Le plan d'aide américain pour l'Ukraine doit être examiné aujourd'hui par le Sénat. L'enveloppe de 61 milliards de dollars a été approuvée samedi par la Chambre des représentants après des mois de tractations. Elle doit permettre à l'Ukraine de répliquer à la Russie qui a progressé sur le front. L'application TikTok Lite dans le viseur de l'Union européenne. Bruxelles a ouvert une enquête sur la nouvelle application de la plateforme chinoise. Elle pourrait la suspendre dès jeudi. L'Union européenne dénonce un service toxique et addictif. TikTok Lite offre des récompenses convertibles en cartes cadeaux en échange du visionnage de vidéos. Et puis des nouvelles de Céline Dion. La chanteuse québécoise est en couverture de Vogue à paraître demain, en retrait depuis 2 ans. À cause de son syndrome de la personne raide, elle accorde un entretien au magazine. La star de 56 ans explique lutter tous les jours contre sa maladie pour revenir sur scène. Voilà pour l'actualité. Très belle journée à vous.
Bonjour à toutes et à tous, le temps est ensoleillé dans l'Hérault ce matin. On relève des températures comprises entre 4 et 11 degrés. Cet après-midi, on observera jusqu'à 16 degrés à Montpellier sous un temps pluvieux. Demain mercredi, le soleil sera de retour, il fera 9 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi à Lunel. Je vous souhaite de passer une belle journée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Palavas et Saint-Mathieu-de-Trévier, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com. Aviva. Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du Salon Cybersécurité S3C. Je suis Marie-Dominique Calvez, la fondatrice du Salon, et je suis accompagnée aujourd'hui de Loubna Brioual. Bonjour Loubna.
Bonjour Marie-Dominique.
Vous êtes consultante senior cybersécurité et renseignement et une des deux marraines du Salon S3C. Et nous allons parler aujourd'hui de cybersécurité et des oubliés du numérique. Alors Loubna, pourriez-vous nous dire quel est l'état de la maturité du numérique en France aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Merci Marie-Dominique pour cette question et pour cette interview. Alors effectivement, le numérique nous a apporté beaucoup d'innombrables opportunités sur le plan économique, social, financier, etc. Mais malheureusement, nous avons créé en fait des sujets obéissants, sans sens critique, sans culture, des moutons adéquats, bien sûr dans une économie libérale, sans idéologie. Donc effectivement, il y a réellement une fracture du numérique. Alors que j'entends par là qu'effectivement, il y a aujourd'hui en France plus de 13 millions de Français qui se trouvent dans la situation de l'électronisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Énorme. Ça représente presque 20% de la population. Alors ce sont des gens qui sont en incapacité d'utiliser des outils du numérique dans la vie de tous les jours. C'est réellement un handicap qu'on aurait vraiment, réellement tort d'ignorer.
Est-ce qu'on a par exemple des tranches d'âge en particulier qui sont plus concernées que d'autres ?
Alors, on a deux types de tranches d'âge. Celles qui sont seniors, après 60 ans. Et nous avons aussi une tranche de population plutôt après 15, entre 15 et 26 ans, qui connaissent ces difficultés-là. Alors, en parlant des oubliés, bien entendu, du numérique, il y a d'autres obstacles. Indépendamment de la compréhension et de l'utilisation, il y a aussi des problématiques de financières pour pouvoir acquérir ces outils-là. Il y a des problématiques aussi de couverture d'Internet. Donc, dans un ère où, effectivement, tout est digitalisé, on est réellement dans un changement de civilisation. La question est, vers quel monde nous voulons vivre? Parce qu'une innovation, une innovation pour innovation, sans réflexion philosophique, sans embarquer en fait les personnes par des campagnes de communication beaucoup plus offensives, va créer une fracture encore beaucoup plus importante. Et parallèlement à ça, nous avons aussi les conséquences de ce numérique-là et liées à la santé mentale, l'isolement, l'absence de contact humain. Et ce sont les sujets d'addiction, de dépendance, des problèmes de langage. Ce sont aussi des débats, des sujets dans lesquels il faut réguler. Donc, aujourd'hui, ces technologies de l'hypervitesse que les big tech nous ont offert a créé en fait une forme d'éclatement en fait de notre société. Donc, il est réellement important de mettre en place des initiatives. D'ailleurs, on pourra en débattre pour pouvoir donner un peu plus d'explications pourquoi c'est une problématique cyber.
Alors oui, justement, je vous la pose. Pourquoi est-ce que c'est une problématique cyber?
Mais tout simplement, quand vous êtes face à une population qui ne sait pas utiliser l'outil, et à côté de ça, avoir une société qui utilise de manière offensive les plateformes et qui n'ont compris qu'est-ce qui se cache derrière ces technologies, pourquoi elle existe, il y a à un moment donné une problématique de compréhension de la menace qu'il y a derrière. Alors les menaces sont de multiples, parce que quand on est dans un contexte de crise systémique, c'est-à-dire des crises de gouvernabilité, où il y a effectivement un repli identitaire, on a aussi un malaise social, on a une apparition de peur identitaire, parce que nous avons laissé un vide idéologique. Et donc, on voit apparaître des phénomènes de radicalisation. Alors, pour répondre à votre question, en quoi c'est une problématique dans le domaine cyber? C'est une opportunité pour le marché de la cybersécurité. Parce que cette population-là n'est pas en capacité d'identifier les attaques basiques dans le monde du numérique. Elles ne sont pas familières à ces problématiques. Elles ne sont pas conscientes des problèmes de sécurité. Donc ces populations-là, elles seront beaucoup plus sujettes à des pièges banals, courantes, comme le phishing ou par exemple les logiciels malveillants. Donc en fait, cette population-là, qui est déjà ne comprend pas comment utiliser, comment accéder à l'outil, n'ont pas en fait une formation, une sensibilisation sur les bonnes pratiques de la sécurité. Donc cette forme d'électronisme sur comment utiliser l'outil, en termes de sécurité, est aussi une problématique supplémentaire. Alors, bien entendu, il y a aussi des difficultés aussi quand on navigue, par exemple, pour accéder à des applications ou se connecter pour l'administration. Ils ne sont pas sujets sur aussi comment reconnaître les menaces de sécurité sur les sites web, par exemple, ou bien télécharger des applications sur leur téléphone. Donc cette mauvaise gestion du numérique face à cette population qui est grandissante fait qu'à un moment donné, on devient une population beaucoup plus sujette, surtout dans un contexte de conflit, de cyberguerre, où effectivement on est dans une situation où effectivement où il y a ce qu'on appelle la guerre informationnelle, où on influe aussi notre démocratie. Alors on est dans une nouvelle nivellement en fait d'une problématique de sécurité aussi dans nos entreprises.
Bien sûr. Alors Loubna, je vous propose de faire une courte pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de cybersécurité. Aviva.
Je laisse la joie d'avoir des dents à ses genoux au ventre creux. Je dépose alors mes vêtements autour d'un rectangle tout bleu. Et pendant que le ciel prend feu, je m'accorde au soleil et le vent. Des longueurs, des longueurs. Le plaisir d'étirer les heures. En longueur, en longueur. Je laisse le monde à qui le prend et le pouvoir à qui le tient. Je laisse la joie d'avoir des points à ceux qui luttent jusqu'au sang. J'abandonne les quelques brins de laurier que la vie me tend. Les couronnes ne m'allant pas bien, et je m'offre dans le couchant des longueurs.
L'émission du Salon Cybersécurité S3C en compagnie de Lumna Brioual, consultante senior cybersécurité et renseignement et une des deux marraines du Salon S3C. Et nous parlons aujourd'hui de cybersécurité et des oubliés du numérique. Alors Lumna, quels sont les dispositifs qui existent pour élever ce niveau de maturité en matière de cybersécurité ?
Alors il existe une multitude de dispositifs qui permettent de pouvoir progresser sur le sujet du numérique. Alors, au niveau de la sécurité, vous avez une agence qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle l'ANSSI, qui elle est une autorité qui permet, en matière de cybersécurité en France, elle permet de fournir des recommandations. Elle donne aussi des bonnes pratiques, les bons outils pour en fait protéger son système d'information, que ce soit pour les organisations publiques ou privées. Et elle propose aussi, l'ANSSI, des formations et elle fait en parallèle des campagnes de sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information. Et en parallèle de l'ANSSI, il y en a d'autres. On peut citer par exemple
cybermalveillance.gouv.fr.
Exactement, voilà. Cybermalveillance.gouv, exactement. Cette plateforme-là est très intéressante parce qu'elle sensibilise, elle accompagne les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Alors elle fait de la prévention. Elle fait de la gestion aussi des cyberattaques. Elle propose aussi, comme l'ANSSI, des conseils pratiques. Elle propose aussi des outils pour diagnostiquer et apporter aussi une forme d'assistance en cas d'incident de sécurité. Alors, indépendamment de ces deux-là, il existe aussi le SecNoob Academy. Alors ça a été lancé il y a quelques années maintenant par l'ANSSI. C'est aussi une plateforme de sensibilisation, de formation en ligne qui propose en fait des modules de sensibilisation qui sont bien sûr gratuites. Et elle propose ça sur différentes thématiques dans le domaine de la sécurité, bien sûr, qui est adapté, et ça c'est très intéressant, à différents publics. On peut citer aussi CyberEduc, qui est aussi une initiative pour éduquer à la notion de sécurité dans les établissements scolaires en France. Elle donne en fait des ressources pédagogiques, des outils pour aider en fait les professeurs, les enseignants à intégrer ces sujets-là de sécurité des systèmes d'information dans leur programme d'enseignement. Et ça c'est très intéressant parce que cette population-là qui est très très outillée, où effectivement ils n'ont pas forcément de sens critique, ils n'ont pas forcément de culture de qu'est-ce qui se cache derrière l'application, comment est construit l'algorithme, ils sont en fait dans, je pense que pour changer en fait ce phénomène de l'ultra numérisation en fait de la population, on parle de certaines catégories, je pense qu'il faut l'intégrer dans l'école publique d'ailleurs. Ça doit être un projet, en fait, de société qui permettrait non pas de limiter les cerveaux, mais d'apporter, en fait, la connaissance.
Alors, je crois qu'ils ont quelques programmes avec PIX hein, quand ils sont plus petits. Puis après, là, j'ai cru comprendre que PIX avait intégré un module cybersécurité. Mais vous avez tout à fait raison, dans d'autres pays d'Europe et d'ailleurs, c'est vrai que la cybersécurité est intégrée au programme dès le plus jeune âge.
Et le fait de comprendre aussi que leurs données, que le principe de tout est gratuit, il faut comprendre que cette économie de l'attention, la ressource, la matière première, c'est eux qui la fournissent. Et que dans ce monde-là, qui est maintenant ultra connecté, mais à la fois ultra interdépendant. Ça, c'est la nouvelle réalité. Et je pense que cette nouvelle avènement que l'on connaît maintenant, ça apporte, comme j'ai dit en introduction, des avantages et des inconvénients. Mais la question est-ce que nous avons défini une politique sociétale derrière ces sujets-là?
Je comprends. Alors, à vous écouter, donc de nombreuses formations et sensibilisations gratuites, donc plus d'excuses possibles pour éviter de se sensibiliser en matière de cybersécurité.
Oui, la question se posera plus, je pense, sur la compréhension et la détection, l'engagement. Apprendre aussi, et ça je pense que dans cette accélération de ces outils de l'hypervitesse, je pense qu'il serait intéressant de faire pause et de faire comprendre à cette génération de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qui nous met à disposition? Quel est l'intérêt à ces big technologies de nous fournir ces applications, cette technologie-là? À qui elle sert? Et savoir si effectivement les gens en ont conscience et comprendre est-ce que les informations que l'on m'envoie, est-ce une information vraie? Comprendre la source de l'information. Et je pense que ce volet-là n'est pas beaucoup abordé dans cette fracture du numérique pour la population qui a accès à ce numérique-là. Alors, c'est aussi un volet très, très important, surtout dans le sujet de la sécurité du système d'information, la sécurité cognitive, je pourrais appeler ça, l'avoir, en fait, une doctrine de liberté de penser, d'avoir un sens critique est quand même un élément à mon avis, très très important pour la suite.
Je comprends. Alors, une question un petit peu plus personnelle, Lumna, est-ce que vous collaborez avec des organismes de l'État ou des associations pour répondre à cette problématique?
Alors, pour être transparente avec vous, Marie-Dominique, jusqu'à l'année dernière, j'étais très engagée avec des associations et en tant qu'enseignante, apporter ma connaissance, faire du mandatoring sur le sujet de la sécurité des système d'information. Alors, l'année dernière, j'ai plutôt consacré à la sortie. En fait, j'ai rédigé un livre, j'ai publié un livre qui s'appelle « Nouvelles technologies, risques pour l'humanité » chez VA Édition. Donc, l'année 2023 était plutôt consacrée sur la publication de cet ouvrage. L'idée pour moi, c'était aussi de partager le nouveau contexte stratégique où nous nous trouvons, l'interconnexion de ces risques-là, à la fois dans notre monde qui est complètement en mutation, et d'apporter les clés à la fois pour les particuliers, mais à la fois pour les entreprises.
Merci Lumna Brioel pour cet échange sur la cybersécurité et les oubliés du numérique. Venez la retrouver au Salon Estracé qui se tiendra les 23 et 24 avril prochain au Palais des Congrès de la Grande Motte. Les billets d'entrée sont à prendre sur le site du salon www.salon-du6s3c.fr ou tapez tout simplement dans votre barre de recherche Salon Cybersécurité S3C. Vous y trouverez des table ronde avec des experts renommés, un espace forum métier pour découvrir les métiers de la cybersécurité, un espace capture the flag pour ceux qui aiment les challenges, un espace e-sport et des gamers pour vous sensibiliser à la cyber via les jeux vidéo et bien sûr un espace exposant où vous rencontrerez les experts français de la cybersécurité et de la sécurité numérique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle le livre écrit par Lumna Brioel, Les nouvelles technologies, risques pour l'humanité chez VA Édition. On vous attend nombreux au Palais des Congrès de la Grande Motte les 23 et 24 avril prochain. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la prochaine émission du Salon S3C.
C'était le Mac de la Rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.
Radio Aviva vous invite à un concert de jazz sensationnel. Artfell en trio international, ce mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, en entrée libre. Vous les avez adorés sur scène pour les 40 ans de Radio Aviva. Retrouvez-les pour une soirée magique de standards jazz populaires, de Cole Porter à Irving Berlin, en passant par Bud Flanagan. Un répertoire palpitant sorti de l'Anglo-American Songbook sera célébré. Artfell au piano, David Cross à la trompette, Eric Gill à la guitare. Artfell Trio, mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, 6 rue Leva, à Montpellier.
Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps. Dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de tout, de tout, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, 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 oh. Elle sort sans son parapluie. Oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie.
Send me no letter. Don't think I could forgive you.
questions de santé.
Questions de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui d'un soin corporel, d'une aide aux soins corporels, une aide aux patients, une aide aux soignants, avec Sonia Duprat. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et moniteur en kinésionomie. Alors clinique bien sûr. Donc en premier lieu pour nos auditeurs, kinésionomie clinique, ça s'appuie sur quelle technique ?
Alors ça n'est pas une technique, c'est une approche, c'est vraiment une sensibilisation qui s'appuie d'abord sur l'autonomie. La science de l'affectivité. Si vous voulez, je vous expliquerai un peu plus tard
bien ce qu'il
en est. Mais la kinésionomie clinique, comme vous l'entendez, il y a le mot kiné. Donc ça veut dire le mouvement habité par le soin. C'est-à-dire que ça n'est plus un soin technique, mais c'est un mouvement. Voilà. C'est un mouvement qui va animer le soin et qui va le rendre vivant.
Donc c'est extrêmement intéressant parce que vous êtes en train de nous dire que le même soin qui est porté à un patient peut être perçu très différemment ou fait même très différemment selon la formation du soignant et selon la sensibilisation du patient.
Tout à fait. C'est une approche de soin qui s'adresse à des gens déjà, à des personnes qui sont déjà formées.
Bien
donc,
sûr.
Que ce soit des aides-soignants, des médecins.
On parle de professionnels de santé.
Et ce sont des professionnels de santé qui interviennent, soit en milieu hospitalier, avec des maisons spécialisées, bien sûr, en soins palliatifs, puisque ça s'adresse beaucoup aux personnes en fin de vie, ou en très gravement malade, ou à domicile, service de soins des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile.
Donc, on parle là de patients qui sont hospitalisés longtemps ou alités longtemps.
Voilà,
c'est bien ça.
Tout à fait.
Alors, la kinésionomie clinique leur permet d'abord, parlons des soignants. Vous êtes monitrice en kinésionomie clinique. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Quelle est la base, là ? On fait coopérer le patient ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, effectivement, j'ai été interrogée, parce qu'en tant que psychologue clinicienne, je n'étais pas dans le soin corporel, mais dans le soin psychique, et j'accompagnais en soins palliatifs.
Oui.
Mais devant la souffrance des soignants qui avaient à accompagner des personnes en fin de vie, il m'a été nécessaire de comprendre ce qui se passait au niveau de ces soins qui pouvaient devenir maltraitants.
C'est ça.
Et voilà. Donc
maltraitant sans volonté de maltraiter, bien entendu.
Sans volonté, mais forcément, le soin devenait douloureux. Et pour le patient, et pour le soignant qui s'épuisait. Et c'est ce qui est expliqué, qu'on a beaucoup moins de soignants qui s'investissent, si vous voulez, dans les soins lourds.
Alors, précisément, qu'apporte là-dessus votre approche ?
C'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout avec la kinésionomie clinique, puisqu'elle s'appuie sur cette science de l'affectivité, sur la démarche non pas de manutention du malade, mais plutôt d'une approche d'invitation et de faire participer le malade ou le soigné ou le soigné à la démarche de soins. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un duel, soignant-soigné,
Je prends un exemple, le patient est lourd, il est fort, il est gros, il faut le lever, c'est compliqué pour le soignant, c'est compliqué pour le patient aussi. Ça apporte quoi ?
C'est-à-dire que nous allons être dans une invitation, beaucoup de présence, une invitation au patient pour qu'il participe, et à partir de là, ça devient une charge légère. Il se lève accompagné par le soignant, et les choses deviennent beaucoup plus faciles et lui-même active sa propre intentionnalité vitale parce qu'il sent qu'il est en capacité, encouragé par le soignant qui l'invite à participer aux soins, à devenir un partenaire.
C'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, le patient lui-même sent la différence lui-même.
Ah, tout à fait.
Il sent qu'il est plus léger, il sent qu'il peut se mobiliser.
C'est ça, c'est-à-dire que au départ nous avions des rictus de ces patients, et maintenant nous avons le sourire, et tout de suite c'est eux qui s'avancent vers le soignant pour aller faire la démarche de soins. C'est extraordinaire.
C'est magnifique. Donc, une expression du corps qui est très différente, en fait.
Totalement du corps, mais pas seulement du corps, même de la pulsion vitale. C'est-à-dire qu'il se redescend de devenir quelqu'un. Ça n'est plus un corps qu'on soigne, c'est une personne qu'on accompagne.
Il redevient une personne. Et donc, cette expression du corps, elle vient du fait que, psychologiquement, il est invité à.
Il est invité et il est réactivé dans son désir.
C'est ça.
Et il a le plaisir de partager et de pouvoir faire ce qu'il pensait ne plus pouvoir faire. Ils existent.
Exact. Donc c'est très fort, c'est très puissant.
Ah, c'est très puissant.
Et je suppose que ça change complètement la relation entre le soignant et le soigné.
Absolument. Et là, maintenant, il y a vraiment une joie de partager les soins ensemble, alors qu'avant, il y avait de la crainte.
Bien sûr. Donc, dans votre expérience, je suppose que vous avez eu des cas magnifiques, vous formez des soignants. Qu'est-ce qui vous revient de la part de ces soignants ?
Alors, bien sûr, puisque je suis formatrice, je fais des évaluations après chaque formation, et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils redécouvrent l'intérêt du travail. Ils redécouvrent leur métier et regrettent de ne pas avoir découvert cette approche-là beaucoup plus tôt, au lieu d'être formés à la manutention, à l'école du dos, etc. Toutes ces techniques qui ne sont pas humaines, qui sont probablement très rationnelles, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'affectivité et la sensibilité du geste, c'est-à-dire la beauté du geste qui invite et qui accompagne.
Alors, on va faire une pause musicale. Nous verrons ensuite comment cette invitation peut se décliner, cette invitation, cette sollicitation de l'affectivité et de la sensibilité du patient, ça peut cohabiter avec les plans de charge des soignants.
Tout à fait.
On fait une première pause musicale.
Je n'ai qu'une envie, c'est de fuir dans mes rêves. Je ne peux plus mentir, tu sais lire sur mes lèvres. C'est seulement pour toi que je reste debout. Seulement pour toi que je tiendrai le coup. Le ciel me l'a dit, tu me guides et m'élèves. Seul ton sourire peut m'offrir une trêve. Quand la terre entière m'aura traité de fou, toi tu seras là, je le sais, jusqu'au bout. Tu es dans mes prières. Seul bouclier, je n'ai jamais oublié. Et l'on pourrait s'y perdre, tant ton cœur est immense. Si le pire doit arriver, je serai ton allié. Car maintenant je sais qu'un ange est parmi les hommes. Toujours ton abri, que viennent les doutes, l'orage ou même la misère. Je n'aurais pas besoin de te chercher, on n'a pas la même mère, mais on a le même sort et je t'aurai toujours dans le sang. Mon cœur n'oubliera jamais, et c'est écrit dans le ciel, si tu tombes, on tombe ensemble. Tu es dans mes prières, mes plus beaux sentiments. Dans le doute, les poings liés, je n'ai qu'un seul bouclier, je n'ai jamais oublié. Parmi les hommes, qu'un ange est parmi les hommes.
Nous continuons notre entretien. Sonia Duprat, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et moniteur en kinésionomie clinique.
Je corrige, aptopsychothérapeute, c'est-à-dire que je suis formée à l'aptonomie en tant que psychologue clinicienne.
Donc ça fait trois gros mots pour les patients, pour les auditeurs, je dirais.
Mais
donc, aptonomie, c'est quoi ?
L'aptonomie, c'est la science de l'affectivité qui a été créée, qui a été découverte par un médecin hollandais, Frans Wellman, et qui, à partir de 1975, a fait le choix de venir sur la France, sollicité par le GERBS, donc une association de spécialistes français, dont François Zolto, dont Bernard Thys, peut-être que les personnes
exactement
connaissent, voilà.
Donc
des savants, entre guillemets, de la petite enfance, qui ont demandé à Franz Zellmann de venir partager son savoir en France, et à partir de là, il a commencé à former.
Franz Zellmann, qui a fait énormément de formations, qui était dans la région d'ailleurs.
Il était à Homs,
oui,
au-dessus de Céré. Donc, il a créé le Centre international de recherche en développement de la pognomie, maintenant, qui est installé à Paris depuis son décès. C'est installé à Paris. Et Catherine Zolto, la fille de Françoise Zolto, est présidente de cette association.
Donc, toute une démarche liée à la sollicitation de l'affectivité dans la relation. Aussi périnatale, quelquefois.
Tout à fait. Alors, l'autonomie s'adresse de la conception à la fin de vie.
D'accord.
Donc, avec toutes les étapes du grandir de l'humain, voilà. Et donc, il y a des spécialités qui s'intéressent au pré- et post-natal, à la obstétrique, etc. Voilà. Donc, et bien sûr, à la fin de vie, c'est ce qui m'avait préoccupé, moi, quand j'étais à l'hôpital et que je m'occupais des personnes contaminées par le sida.
Exactement, vous avez constaté ce besoin finalement de faire coopérer, de donner cet élan de vie.
Tout à fait.
Chez des gens avec des pathologies terribles.
Voilà, tout à fait. Alors, des personnes qui étaient vécues comme les parias de la société, mais à qui on redonnait une place.
Bien sûr. Alors, si jamais, cette autonomie, science de l'affectivité, qui permet de mobiliser, de sensibiliser le patient, le soignant, de créer un lien, finalement, qui fait qu'il est invité à...
Invité ou pas.
Invité ou pas.
Oui.
Et de toutes les façons, ça fonctionne.
De toute façon, ça fonctionne. À partir du moment où vous repartez sur l'affectif, parce que c'est quelque chose de très archaïque de ce qui nous constitue en tant qu'humain. Nous avons deux cerveaux. Le cerveau émotionnel et le cerveau cogitatif. Celui qui réfléchit, qui analyse. Descartes s'est trompé en disant « je pense, donc je suis ». Il a fait de nous que des êtres fonctionnels.
Ouais.
Alors que le premier cerveau qui se crée intra-utéro, c'est le cerveau émotionnel, avec toutes les perceptions de l'enfant intra-utéro contre la paroi utérine et les ressentis de la mère. Donc, et quand nous arrivons au monde, nous sommes portés par l'affectivité de nos parents qui nous regardent, qui nous aiment, et c'est comme ça qu'on construit aussi l'estime de soi.
Exactement.
Et toute l'affectivité va passer par ou le regard ou par le contact. Alors ça n'a rien à voir avec le toucher. Le toucher, je manipule. Le contact, je rencontre, c'est contactere, c'est avec délicatesse. C'est-à-dire, je vais dans la profondeur de l'être pour le rencontrer.
Oui, c'est ça. Donc c'est important, je le rencontre, ça peut être avec un regard.
Ça peut être avec un regard, c'est ce qui s'est passé aussi quand Franz Zellmann a été prisonnier. Il a échangé un regard avec un prisonnier qui allait être abattu sous ses yeux. Il a accompagné en fin de vie.
Il a tenu à
il
travers
a tenu
son
le regard.
Regard,
il a soutenu cet officier anglais qui était condamné à mort par les nazis. Et qui allait être exécuté sous ses yeux. Donc c'est le regard de Franz qui a soutenu cet homme, et c'est là où on a parlé finalement de cette communication non verbale, de cette rencontre et cette adéquation avec l'autre.
D'où est née l'autonomie. Et qui est utilisée justement pour faire de la kinésionomie
clinique.
Alors, comment les soignants que vous avez formés, etc., concilient ça avec leur rythme de travail, le nombre de patients à faire, ça prend beaucoup plus de temps, pas du tout.
Alors, pas du tout. C'est là où ils redécouvrent le plaisir du soin, parce que c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où le patient a compris qu'on n'est plus dans la manutention, qu'on ne l'oblige plus à faire, mais qu'on est dans son rythme, qu'on est en résonance par rapport à sa capacité, le patient va pouvoir être beaucoup plus agile et plus facile à faire les soins et à accompagner le
bien
soignant
sûr
dans les gestes, donc ils seront beaucoup plus faciles à faire et le plaisir est communicatif.
Donc il y a une satisfaction des deux parties finalement. Alors,
et c'est une erreur de dire on risque de prendre plus de temps, pas du tout, au contraire.
C'est pour ça que je vous posais la question, pas parce que ça va être ce qui est avancé en premier.
C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Et, ça, et à partir du moment où le soigné est partenaire, eh ben, il dégage du temps au soignant.
Alors, c'est une démarche, on le sent, hein, qui prend de l'ampleur, qui prend de la valeur, qui prend du volume aussi. Est-ce qu'on va aller, à votre avis, vers de plus en plus de soignants, qui sont, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, des soignants qui sont formés et qui ont cette aptitude-là ?
Alors, sur Perpignan, nous sommes en train de le mettre en place avec ma collègue Marianne Télandier, qui est médecin gérontologue et gériatre, psychothérapeute aussi, et formée en kinésionomie clinique. Nous avons formé déjà, depuis 10 ans, des personnels de SIAD.
D'accord.
Et actuellement, nous formons en maison de retraite aussi, des personnels. À Paris, la maison Jeanne Garnier, qui est l'élément de référence en soins palliatifs en Europe même. Oui. Hein, il y a 80 lits de soins palliatifs. C'est une société savante qui fonctionne maintenant avec la kinésionomie clinique. D'ailleurs, le dernier congrès qui a eu lieu dernièrement, il y a eu le partage de tout un groupe de recherche nommé par le ministère qui a fait un travail autour de des bénéfices de la kinésionomie clinique en soins palliatifs.
Donc, comme en médecine et dans ce domaine de santé, on raisonne en bénéfice-risque, il est à parier que ça va se développer de plus en plus. Sonia Duprat, merci infiniment. On souhaite que cette méthodologie et cette approche-là prennent du volume, à la fois pour les soignants, bien sûr pour les soignés, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, moniteur en aptokinésionomie clinique. Merci.
Je vous remercie.
C'était Question de santé.
Question de santé.
Le rendez-vous santé de Radio Aviva. It's a fool's game, nothing but a Mont d'Argues et Cours-Monterral, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com. Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7.
Baby, saying no, no.
If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm not cheating, I'm not cheating, I'm not on the world. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, I gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay.
Aviva, je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. Si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher